Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bon, finalement, on va démarrer avec 5 minutes d'avance sur l'horaire prévu, vu que tout le monde est là. Enfin, tout le monde n'est pas là, mais je pense qu'on va pas pouvoir faire rentrer tout le monde. Merci Delta, nombreuses, nombreux. Et on va faire un petit peu chaud, mais ça devrait aller, si on bouge pas trop. Merci beaucoup pour votre présence ce soir, donc à cette première des rencontres qu'on organise pour célébrer les 25 ans de La Fabrique, avec qui on a un compagnonnage depuis quelques années et dont on suit le catalogue avec beaucoup d'assiduité. On remercie chaleureusement Jacques Rancière de nous accompagner et de venir accepter notre invitation. Il devait venir déjà il y a 2 ans, mais c'était au moment du confinement, donc on espérait pouvoir le faire venir à cette occasion. Il a très gentiment accepté de venir nous présenter d'abord un livre qui est à La Fabrique, Les Trente Glorieuses. Les Trente Inglorieuses, pardon. Scène politique, qui est une anthologie de textes d'intervention, on peut dire, de Jacques Rancière, publié dans des revues ou des journaux. Et son dernier livre, Les Voyages de l'art, dont on dira 2 mots, puisque c'est l'actualité éditoriale. On remercie chaleureusement Florian Torres des éditions du Typhon, avec qui aussi on a commencé un compagnonnage depuis quelques années, un catalogue de littérature, mais il se trouve que Florian a quelques connaissances en philosophie de par son parcours et qu'il connaissait très bien l'œuvre de Jacques Rancière, et que quand on lui a parlé de l'invitation il y a 2 ans, il s'est proposé pour venir de Lyon. Il était venu de Lyon, ouais, pour poser des questions à Jacques Rancière, et voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. Les rencontres sont enregistrées et donc disponibles en podcast sur notre site et sur une chaîne de podcast. On est en train d'organiser tout ça, mais enfin vous pouvez trouver des enregistrements vidéo, parce qu'on enregistre une rencontre par mois, et puis des enregistrements audio maintenant depuis quelques années. Il y en a pas mal que vous pouvez retrouver sur notre site. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous encore une fois, et je vous laisse avec Jacques et Florian.
Eh ben, bonsoir à tous, à toutes. Merci beaucoup d'être là, d'être nombreux. Bonsoir Jacques Rancière, merci également d'être présent, d'avoir accepté cette invitation. Bon, moi, en tant que modérateur, je les ai suppliés. De fait, j'espère que je serai à la hauteur de tout ça. Aujourd'hui, donc, effectivement, comme c'est dans le cadre de l'anniversaire de La Fabrique, également des liens qui unissent La Fabrique et Terra Nova, on va davantage parler des Trente Inglorieuses. Néanmoins, on fera quelques questions, quelques embardées du côté des Voyages de l'art, voilà, qui est le dernier ouvrage de Jacques Rancière paru au Seuil. Je pense que au niveau de l'organisation de la soirée, donc quelques questions sur les Trente Inglorieuses, quelques questions les Voyages de l'art, et puis après évidemment on aura un temps d'échange avec le public, avec vos questions. Je pense que vous connaissez l'œuvre de Jacques Rancière. Pour ceux qui seraient un peu moins familiers peut-être de l'œuvre de Jacques Rancière, je propose quelques éléments, mais ce sera très rapide, très succinct, et évidemment comme rapide, succinct, un peu caricatural, quoi. J'irai un peu vite. Disons que voilà, je me suis demandé, tiens, si on connaissait pas du tout l'œuvre de Jacques Rancière, quelle serait une porte d'entrée qui semblerait, pourquoi pas, peut-être un peu pertinente, un peu opérante, et j'ai pensé à la notion d'écart. où il y a un titre de Jacques Rancière qui s'appelle Les écarts du cinéma, et j'ai pensé à cette notion d'écart. C'est-à-dire, je me suis souvenu d'un titre du, je crois, deuxième livre de Jacques Rancière, La nuit des prolétaires. Et j'ai pensé à l'écart rien qu'opéré avec ce titre-là. Vous voyez, quand on entend La nuit des prolétaires, on se dit, tiens, la nuit, eh ben, ça va être un philosophe qui va vouloir éclairer justement ces prolétaires. Un philosophe qui va vouloir les faire sortir de leur nuit, montrer justement à ceux qui ne savent pas, bah, ceux qui ne savent pas. Et quand on découvre et lit l'œuvre de Jacques Rancière, on se rend compte que la nuit, bah non, c'est pas ça. La nuit, c'est un temps. Et qu'est-ce qui se passe durant ce temps? Donc on voit déjà le premier écart de s'éloigner d'une approche critique, d'une théorie critique pour aller ailleurs. Ensuite, dans La nuit des prolétaires, on a donc prolétaires, et on pourrait se dire, tiens, bah, voilà, ces prolétaires, ils vont répondre à une image un peu attendue, cliché, je sais pas, la nuit, ils vont faire la fête, ils vont, et en fait, pas du tout, il y a autre chose qui se passe, il y a un écart. Ils vont faire d'autres pratiques, ils vont aller du côté de la poésie, du côté de se rassembler, du côté de plein de choses qui sont autres. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours ce travail du brouillage et de l'écart d'œuvre en œuvre chez Jacques Rancière. Écart également qu'on va trouver dans le rapport à la philosophie. C'est pas une philosophie qui s'intéresse simplement à la philosophie, mais c'est une philosophie qui va chercher du côté du cinéma, du côté de la littérature, du côté de l'histoire également. Donc on voit ces écarts-là. Et puis c'est une philosophie qui s'intéresse également à ce brouillage, ces brouillages entre des choses qui semblaient déterminées, entre art et politique. On y reviendra lors de cette rencontre. Bon, voilà, quelques grands dessins à grands traits. Si on prend déjà les 30 inglorieuses, vous avez vu le renversement, hein, des 30 glorieuses, ça se découpe en trois parties, avec une partie qui s'appelle donc la première, qui porte sur le racisme d'en haut, ensuite la non-démocratie en Amérique, vous voyez le renversement, et puis les temps incertains. Et donc, dans votre introduction, vous parlez, vous commencez d'il y a à peu près 30 ans, le début des années 90. Voilà, on a ce livre, La fin de l'histoire, et vous évoquez ces thèses. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les thèses de La fin de l'histoire et en quoi ces thèses ont semblé comme ça éclairer ou, disons, trouver un consensus?
Bon, disons que effectivement le livre part des années 90 parce que bon, c'est évidemment juste après l'effondrement du système soviétique, effondrement qui est bon accueilli généralement comme voilà, c'est le triomphe de la démocratie. Bon, avant on disait il y a le totalitarisme puis il y a la démocratie. Le totalitarisme, pour l'instant, peu importe si on met des guillemets ou pas, c'est pas important. Hein. Bon, le totalitarisme s'effondre, donc la démocratie règne quoi. La démocratie va maintenant être un peu en quelque sorte la norme, on peut dire. Pas seulement finalement de la politique, mais même de la manière d'exister sur l'ensemble du monde quoi. Alors bon, en 92 il paraît ce livre donc de Francis Fukuyama qui s'appelle je vais très bien lire le titre, on l'a tellement connu qu'on l'a oublié, c'est La fin de l'histoire, mais c'est aussi autre chose, enfin bon, en tout cas bon, qui est sur ce thème en quelque sorte que désormais bon, ben, la démocratie était comme une espèce de fin en quelque sorte de l'histoire quoi. Bon, disons, avant on pensait à une fin de l'histoire, enfin tout un avenir de l'histoire qui était l'avenir de la révolution quoi. Et à ça s'opposait à ce moment-là l'idée que bon, finalement la fin de l'histoire, c'était le moment où avec l'effondrement du système soviétique, il y allait y avoir que un seul système un peu sur le monde entier, à savoir la libre concurrence capitaliste, enfin le marché capitaliste d'un côté, disons des systèmes des régimes parlementaires à l'Occident, à l'occidental. Voilà, c'était ça. Bon, je me souviens à l'époque, d'un grand interprète, disons, de la pensée officielle en France. Quoi, je me souviens une fois, parlant d'un débat sur la démocratie, ça se passait à Haïti, quoi. Et bon, il a dit, la démocratie, c'est le lien. Les gens posaient la question, est-ce que vraiment la Russie, c'est un pays démocratique, quoi? Et il a dit, la démocratie, il y a deux critères. Il y a le libre marché et les élections libres. Bon, il y a le libre marché, l'élection libre, donc c'est la démocratie, quoi. Voilà. Donc voilà, il y a eu ce moment, en quelque sorte, il y a quand même toute une espèce, disons, de logique un petit peu dans laquelle on était, d'opposition entre des mondes qui ont maintenant soutenu aussi l'espérance révolutionnaire, même si l'espérance qui nous venait de l'URSS avait rien de très glorieux quoi et de très stimulant. Voilà, donc il y a ce moment où on a l'impression maintenant toutes les différences s'effacent en quelque sorte, il y a une espèce de régime en quelque sorte un petit peu mondial, pas simplement de la politique mais au fond de l'existence sur cette terre quoi, qui fait que partout à peu près dans le monde, on va avoir le libre marché, des états parlementaires et un mode de vie, ce qu'on appellera plus tard la petite bourgeoisie universelle, quoi.
Et ce que vous voyez apparaître, et là donc dans ce livre qui est constitué d'articles, d'interviews, de conférences, vous voyez apparaître autre chose qui se tisse, qui se noue, et entre autres, vous voyez également apparaître cette figure du racisme d'en haut. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez observé justement d'année en année, cette construction de, pour ainsi dire, de gouvernants à la fois spécialistes, mais qui utilisaient des méthodes, disons, un peu archaïques dans la construction d'un autre inassimilable?
Je ne sais pas si c'est des méthodes tellement archaïques, en fait. Non, ce à quoi on a assisté depuis les années 90, bon, je parle que de la France, bon, bah, pour être, parce que bon, effectivement, c'est que malgré tout ce qui va passer en France, à savoir les différents types de législation qu'il y a pu y avoir en France. Bon, on peut dire que, bon, avec la montée régulière, du Front National, bon, c'était aussi un des événements de l'époque, justement, qui, en même temps, contredisait un petit peu la vision que, oui, voilà, c'était la démocratie, ce qu'on appelait la démocratie parlementaire, partout, disons un monde apaisé. Bon, et puis on voit dans notre pays qui apparemment était un pays paisible, une montée régulière de l'extrême droite, quoi. À ce moment-là, bon, disons, il y a eu toute une espèce de fond d'agitation, on peut dire, qui est une agitation d'abord gouvernementale, qui a consisté en quoi, qui a consisté à dire ces gens-là, ils posent des vraies questions, à savoir l'immigration. Ça pose des questions, l'assimilation des autres, leur assimilation, ça pose des problèmes, mais on va les résoudre. Mais on va faire en sorte que, justement, si on résout le problème de l'immigration, il n'y aura plus raison au racisme, quoi. Il n'y a pas de raison, puisque c'est ça la cause. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les gouvernements? Bon, c'est finalement produire toute une série de mesures qui étaient censées, réduire l'immigration, réduire le droit du sol, réduire les possibilités pour des gens finalement venant donc un petit peu de l'ancien monde colonial d'acquérir la nationalité française, restreignant de plus en plus les conditions d'accès à la nationalité française. Voilà, donc toute une série de mesures qui étaient prises avec l'idée que voilà, bon, il y a des espèces de passions un peu sordides dans le corps social, mais nous qui sommes des gens raisonnables, sages, nous prenons les mesures. Bon, il y aura moins d'immigration, il y aura moins de clandestins, il y aura moins de trafic, il y aura moins de tout ça. Bah donc le racisme va s'effondrer, quoi. Bon, alors ce qu'on a observé, c'est qu'au contraire, de mesures antiracistes en mesures antiracistes, disons, l'extrême droite ne cessait de monter, quoi. Donc, elle ne cessait de monter, mais que finalement, disons l'espèce de belle, en quelque sorte, unanimité, de beau consensus, des gens bien, quoi, des gens bien de droite et de gauche contre l'extrême droite supposée vraiment répugnante, quoi. Ben, de plus en plus, finalement, cette espèce de consensus dominant, en réalité, bon, font intégrer, assimiler. Assimiler précisément le fait qu'il y avait qu'un problème, un problème qui était central, essentiel, qu'il fallait résoudre, qu'il y avait vraiment des gens qui n'étaient pas comme nous, quoi. Et surtout, on a vu un usage de la loi, qui était intéressant, parce que il y a eu plein de lois qui se sont succédées, toujours avec cette idée de régulariser la question des immigrés, c'est-à-dire non pas les immigrés, mais la question, ce qui était autre chose. Et avec l'idée toujours, donc voilà, on règle les choses de manière apaisée, etc. Or, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, ces lois qui étaient censées être des lois d'apaisement, si on peut dire, ou bien des lois qui étaient simplement sur le plan vraiment juridique, administratif, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles passaient leur temps, en réalité, à faire autre chose, à savoir à constituer précisément la figure d'un autre qui était inassimilable, quoi. C'est-à-dire que, bon, par rapport à des espèces de sentiments confus de rejet de l'autre, ce que faisait la loi, c'est-à-dire vraiment constituer en quelque sorte, on peut dire, l'objet de ce refus-là, quoi, constituer la figure de l'immigré comme quelqu'un qui n'est pas assimilable. Et bien sûr, c'est quelque chose qui n'a pas cessé de se développer, puisque, bon, et malgré tout, on est encore pas très loin de l'adoption de cette loi pour conforter les principes républicains qui s'appelait avant loi contre le séparatisme, c'est-à-dire précisément avec l'argument que pour combattre des tendances séparatistes, bon, bah, disons, on isole de plus en plus, on stigmatise de plus en plus une partie de la population, quoi. Il y a eu toute la série de mesures, d'une part d'abord contre les clandestins, etc. Mais il y a eu bien sûr les premières mesures, la loi dite sur le voile de 2004 et Et bon, il y a eu bon aussi à un moment donné aussi des opérations anti-Rome, c'est vrai, qui ont été assez violentes et ainsi de suite. Donc, et disons de, à chaque fois, qu'est-ce qu'on voyait, c'était de bon au fond que l'argument en quelque sorte qu'il y avait des passions populaires malsaines qu'il fallait en quelque sorte contrôler ou qu'il fallait réprimer était en réalité l'occasion d'imposer des passions malsaines mais pas du tout populaires, des passions de nos parlementaires et aussi, bon, on pourrait y revenir aussi, de toute une large fraction de l'intelligentsia. Donc voilà, c'est-à-dire que petit à petit on s'est rendu compte, bon voilà, on a amené à se demander, bon, est-ce qu'il ne faut pas sortir de ce schéma suivant lequel bon, bah, le racisme c'est des petits trucs un petit peu chez des petites gens qui sont un peu malheureux, un peu désorientés, bon, un peu un peu arriérés, et, voilà. Et puis non, bah, depuis en plus on se rend compte que non, bah, c'est finalement une passion qui est portée par les gouvernants et portée par toute une fraction de l'intelligentsia, donc ce que j'ai appelé un racisme d'en haut.
Dans cette partie, justement, ce racisme d'en haut, il y a un texte au départ publié, me semble-t-il, sur Mediapart, qui aborde cette question la laïcité avec ce renversement d'une obligation d'État qui devient une obligation des individus. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce développement en lien également avec la vision de la République et du républicanisme, la façon dont les choses se sont un peu nouées et le...
C'est difficile, si on veut pas être trop caricatural, même quand on parle d'idées souvent caricaturales elles-mêmes. Bon, mais ce qui est effectivement, disons, ce qu'on a vu se développer dans les années 80-90. Bon, c'est une espèce comme ça de développement d'une idéologie dite républicaine qui au fond avait vocation un petit peu à être comme un substitut par rapport aux grandes espérances socialistes déçues, c'est-à-dire voilà, il y a des gens qui ont dit on va restaurer les principes républicains, l'égalité républicaine. Et bon, ça a commencé effectivement beaucoup autour des affaires des lycéennes qui voulaient pas enlever leur foulard. Et là, on s'est développé toute une argumentation qui est au fond étrange pour des gens de ma génération, même s'il y a des gens de ma génération qui ont soutenu quoi, et qui consistait à dire que la laïcité, ça consistait à ce que les gens effacent les signes de leur différence quoi. Bon. Encore une fois, de mon temps, la laïcité, ça voulait dire l'État ne voit pas les différences, quoi. C'est-à-dire que d'une certaine façon, la laïcité voulait dire bon, si à l'école il y a des gens qui ont des habits qui sont un peu différents de ceux qu'on a dans l'habitude, bon, ça, le maître le voit pas, le prof le voit pas, le prof il est là pour enseigner, il est là pour instruire. Or, bon, il y a eu ce renversement, qui de plus en plus, et bon, c'est devenu de plus en plus écrasant quand même au fil des années, a transformé la laïcité en obligation des individus. Et bien sûr, cette obligation ne pouvait concerner qu'une population bien précise, c'est-à-dire que de plus en plus, mais simplement, effectivement, bon, les jeunes filles appartenant, les jeunes filles de religion musulmane, les jeunes filles, venant un petit peu du monde de l'islam, qui étaient concernées en quelque sorte, ce qui fait que cette soi-disant universalité, en réalité, était bien spécifiée et visée à, en fait, à stigmatiser, à exclure une catégorie déterminée, quoi. Donc, et bon, ce qui est important, je crois, c'est la façon dont cette idéologie, bon, est donc soutenue par des gens qui venaient de la gauche, quoi, des gens qui avaient été qui avaient été communistes, qui avaient été maoïstes même, qui avaient été des grands militants socialistes, quoi, qui s'étaient reconvertis là-dedans. Et bon, ce qui est intéressant, c'est la façon finalement dont cette idéologie portée au départ par des gens qui se réclamaient de valeurs de gauche, l'égalité et ainsi de suite, quoi, a fini par devenir en réalité la principale ressource en réalité de la stigmatisation et du racisme. C'est-à-dire que maintenant, bon, on dit plus que les Noirs sont des arriérés ou qu'ils sont paresseux ou que les Arabes sont comme ci, comme ça. Non, on dit mais ils sont pas laïcs, donc ils sont pas assimilables. C'est-à-dire que, et bon, ce qui est intéressant, c'est que, bon, si vous regardez maintenant le discours de tout domine, ministre, etc. C'est extrêmement frappant à savoir, cette idéologie formée par des gens venant de la gauche dans les années 80-90, quoi, est devenue en quelque sorte la langue officielle de nos ministres, quoi.
Et puis vous avez donc beaucoup travaillé sur le 19e siècle, où là le mot république avait un tout autre sens aussi, était porté par un tout autre groupe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, bon, évidemment on doit aller très vite, mais un petit peu ces différents enjeux entre qui est républicain, république représentative, ce qui se passait, par qui c'était porté au 19e siècle?
Bon, disons au 19e siècle, il y a un moment, je pense que de ce point de vue-là est un moment significatif, c'est 1848. 1848, donc, bon, la République est déclarée. Mais très vite, en réalité, il y a trois républiques. Il y a la République simple, c'est-à-dire un système de, une constitution, quoi, un système d'institution, quoi. Il y a la République démocratique. La République démocratique, c'est quoi? C'est la République qui, disons, ouvre une sphère, on peut dire, de parole, une sphère publique, une sphère de discussion publique et d'action publique qui est justement pas limitée à la sphère de l'État, quoi. Et puis, il y a une troisième chose qui est la République démocratique et sociale. C'est-à-dire, la République étendue, en fait, bon, à l'atelier. C'est-à-dire, 1848, c'est le moment, c'est le grand moment, un petit peu disons, de la pensée des associations. L'idée, au fond, que on va transformer le monde du travail, que là où il y avait des patrons et des ouvriers, il y aura désormais des ouvriers associés, quoi. Et que, et au fond, à partir des compétences qui existent déjà, à partir de ce qui existe déjà, bon, on va transformer, bah, le monde capitaliste en un monde de travailleurs, bon, associés, quoi. Donc voilà, on a ça. Et ce qui est très marrant, c'est à l'époque, c'est bon, là, quand quelqu'un à l'époque disait je suis républicain, un républicain pur, tout le monde savait que ça voulait dire je suis royaliste, quoi. Les royalistes disaient tout ça, je suis pour la République. La République on me complète, mais surtout que la République, quoi. Et bon, effectivement, les gens qui voulaient la République un peu plus démocratique ou sociale, disons, bah, ils ont été un peu balayés, exterminés, disons, à différentes époques entre 1848 et 1851, quoi. Mais c'est quelque chose, bon, qui est resté en quelque sorte, bon, assez fort, qui en plus renvoie à quoi? Renvoie à l'idée d'une espèce d'opposition entre République et démocratie, quoi. C'est-à-dire que, bon, là, il faut se souvenir aussi un peu du modèle républicain, bon, américain, quoi. C'est-à-dire que la démocratie, c'est quelque chose qui est un peu inquiétant, quoi. La démocratie, si on prend au sens fort, c'est beaucoup plus qu'un régime institutionnel. La démocratie, ça veut dire, au fond, une capacité collective, une capacité d'action collective qui appartient précisément à ceux qui n'ont aucune raison particulière, disons, d'être supérieurs aux autres, de commander les autres. Donc, au fond, quelque chose comme une action collective des égaux en tant qu'égaux, ou si on veut, par rapport aux gens qui pensent être des gens compétents, quoi, au fond, quelque chose comme un gouvernement de n'importe qui, un gouvernement de ceux qui n'ont pas de compétences particulières pour gouverner. Donc là, dans l'idée de démocratie, il y a cette idée, une espèce de désordre fondamental, à savoir que il y a des gens qui agissent sans avoir de légitimité, de par leur science, de par leur puissance sociale, et ainsi de suite, quoi. Alors, bon, on sait que, bon, quand même, disons, c'est un problème qui se pose notamment au moment de la, disons, bah, de la naissance un petit peu des États-Unis, quoi. L'idée, bon, évidemment, d'une république qui va pouvoir, bon, réprimer la démocratie, quoi. C'est-à-dire que, bon, un des premiers présidents de la République, des États-Unis, a déclaré un jour, l'idée de la démocratie, c'est l'idée d'un État où il n'y a pas de gouvernement. Voilà, donc, d'une certaine façon, la démocratie, c'est le règne des ingouvernables. Donc, effectivement, donc là, au fond, la République est pensée comme ce qui met de l'ordre. Ce qui met de l'ordre, c'est-à-dire, bon, un système où il y a des représentants, où il y a finalement toute une série d'instances qui permet que, bon, même si on dit que c'est le peuple qui gouverne, bah, ce soit les gens compétents, ce soit les propriétaires qui ont des intérêts à défendre, ce soit les gens compétents qui ont fait des études, bah, qui gouvernent, quoi. Ça veut dire aussi la République, l'idée que, au fond, les institutions doivent être fondées sur une espèce d'un peu de morale commune, acceptée, d'éducation, d'instruction. Et voilà, donc, bon, ce qui évidemment va triompher en 1870 avec la Troisième République. La Troisième République, c'est quoi? C'est l'idée, disons, d'un gouvernement qui est, bon, pas simplement un système d'institution, mais toute une espèce d'éducation proprement du peuple, quoi. Bien sûr, il faut se rappeler que cette éducation du peuple, elle est faite au moment où la République des Versaillais a écrasé la République de la Commune.
Et à quel moment la lecture, la découverte ou la redécouverte, le travail sur la République de Platon vous a permis de voir les choses, pour ainsi dire, avec beaucoup de clarté?
J'ai fait cette longue recherche sur l'émancipation ouvrière qui a donné lieu à la nuit des prolétaires. Donc voilà, ça c'était ma thèse en principe, même en réalité. Et bon, bon, au moment de soutenir ma thèse, de soutenir cette thèse, bon, il fallait que je fasse un petit discours, évidemment, pour introduire tout ça, devant un jury où il y avait à la fois des historiens et puis des philosophes, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais un peu repartir un petit peu de Platon et des artisans, quoi, pour justement présenter mon affaire, quoi. À ce moment-là, bien sûr, j'ai relu, notamment La République, et notamment, bon, j'ai relu ce livre 2 de La République, où que, bon, voilà, lorsqu'il construit sa République, Platon explique quoi? Ben, il explique que, ben, disons les ouvriers, ils n'ont pas le temps d'être ailleurs qu'à leur atelier. Ça veut dire, bien sûr, ils peuvent pas être à l'assemblée du peuple, bien sûr, c'est ça que ça veut dire, quoi. Pourquoi? Parce que, ben, le travail n'attend pas. Donc voilà. Donc qu'est-ce que dit Platon? Bon, il y a une catégorie de gens qui ne peuvent pas rester, qui ne peuvent pas être ailleurs que là où ils sont. Leur place, c'est proprement l'atelier, quoi. Bon, l'argument était bien sûr absolument fallacieux parce que le travail n'attend pas. Bon, précisément, le travail attend très souvent. Voilà. Mais bon, ça, c'est bon. Ce qui m'a intéressé, c'est la façon dont dont Platon, disons très fortement, en quelque sorte, au fond, théorise ce que j'appellerais moi partage du sensible, c'est-à-dire l'idée que si vous êtes à une certaine place, bah, il y a des choses que vous pouvez faire, que vous pouvez pas faire, vous devez avoir aussi les qualités, les modes d'activité, et ainsi de suite, qui correspond à cette place. Donc pour moi ça a été très important parce que voilà, donc il disait, bon, ils n'ont pas le temps, bon point, mais on comprend que le temps, justement, c'est pas simplement une durée empirique, c'est une situation en réalité, c'est une espèce de situation à la fois matérielle et symbolique, quoi. On est dans un espace matériel et symbolique où on ne peut pas faire autre chose que ce qu'on fait, quoi. Donc il y avait cet argument du temps qui, bien sûr, pour moi répondait au fait que j'avais beaucoup travaillé sur les textes notamment du Menuhier Goni, qui était aussi sur le temps, quoi. Qui a écrit donc des textes sur le temps de travail à la journée, sur le temps de travail à l'atelier. Précisément, à un sens, il dit la même chose que Platon, quoi. À savoir que, disons, le principal, le cœur même du prolétariat, c'est pas le fait d'être mal payé pour son travail. Le cœur du prolétariat, c'est de ne pas avoir le temps et d'être assigné à une absence de temps, quoi.
Je propose une transition entre le temps et la météo pour parler de la canicule de 2003, qui fait partie justement de l'un des textes où vous mettez en avant quelque chose qui apparaît, ou peut-être qui se dessine encore plus clairement, du rapport entre État et individu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui se joue à ce moment-là?
Oui, bon, c'est-à-dire que, bon, dans les années 90, 2000, bon, on n'a pas cessé de nous seriner que c'était fini le temps de l'État-providence, c'est-à-dire, bon, enfin, fini le temps de la sécurité sociale, pour le dire clairement, quoi. C'était fini le temps de l'État-providence, que maintenant, sinon, c'était le monde de la responsabilité, on n'avait plus à faire des assistés, bon, c'était un grand thème de Sarkozy, ça. Donc, voilà, quoi. Donc, l'État, en quelque sorte, se retirait, comme ça, se ramener, disons, à ses fonctions propres, et puis après ça, ben, les individus, ben, ils se débrouillaient tout seuls, quoi, pour le dire vite, quoi. Or, donc voilà, cette espèce d'idée, voilà, c'est fini l'État-providence, fini l'intervention de l'État, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on voit arriver avec la canicule et avec tout ce qui tourne autour, et qu'on reverra bien sûr encore plus au moment du Covid, quoi, c'est précisément le contraire, quoi. À savoir qu'à partir du moment où, on peut dire, les systèmes de sécurité sociale, de protection sociale, un petit peu, sont plus ou moins, bon, disons, diminués, liquidés, etc., et ben c'est l'État qui devient, en quelque sorte, comme le protecteur de tous les individus, quoi. Et bon, et ça se faisant, bon, au nom d'une notion qui est une notion, effectivement, qui montait à cette époque-là, qui n'a pas cessé de monter depuis, une notion de sécurité, quoi. C'est-à-dire que finalement tout problème devient une insécurité. Une insécurité, et bon, l'État doit assurer la sécurité. Alors, assurer la sécurité, effectivement, ça veut dire que, ben, il doit s'occuper, bien sûr, de la sécurité des individus contre les terroristes, par exemple, mais aussi qu'en un sens, il est responsable du climat, il est responsable des virus, il est responsable des épidémies, et ainsi de suite, ce qu'on a revu, effectivement. Là, donc, et bon, c'est quelque chose, je crois, qui est très, très fort, cette manière dont, en quelque sorte, tout ce qui relevait de la solidarité collective, tout d'un coup s'est trouvé transformé en une sorte de rapport entre l'État entre l'État sécuritaire et les individus auxquels cet État assure la sécurité. C'est-à-dire que, bien loin que l'État dit prévenance ait disparu, ce qui est vrai, ce qui a disparu, effectivement, c'est tous les systèmes de solidarité sociale, quoi. Non, l'État, en quelque sorte, n'a cessé, en réalité, de se renforcer pour, effectivement, prendre sur lui toutes les fonctions qui étaient, dans, à une époque, celles de la solidarité horizontale entre les individus.
Je pense à quelque chose concernant la partie qui s'appelle la non-démocratie en Amérique, où vous parlez du rapport de Trump et ses électeurs, ou plutôt d'un certain rapport qui a été supposé. C'est-à-dire qu'il y avait des articles disant « mais pourquoi ces gens-là votent pour Trump ? C'est pas contre leur intérêt ?» Et derrière, vous mettez en avant quelque chose qui se joue, qui est autre, qui est l'ordre, justement, qui serait l'ordre des passions. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette notion de passion égalitaire, passion inégalitaire, et quelque chose qui revient dans votre œuvre, c'est-à-dire moins des rapports de force que des rapports de monde?
Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans à dire, quoi. Mais bon, c'est effectivement, moi, ce que j'ai appris, bon, là, c'est un peu, il faudrait parler de Jacques Otot, du maître ignorant, de l'émancipation intellectuelle, c'est que, bon, égalité et inégalité ne sont pas simplement des mesures, quoi. Ce ne sont pas des mesures, ce sont proprement des processus. Des processus, on part de l'égalité ou on part de l'inégalité, ça veut dire, ça veut dire qu'ils sont aussi quelque chose comme proprement des passions. Des passions au sens de, ce qui fait mouvoir des êtres, et justement d'une manière qui est à l'écart de ce qu'on appelle simplement des intérêts, quoi. Ce qui s'est passé effectivement, c'est que, il y a toute une tradition qui est venue de l'économie, qui est relayée par la sociologie, quoi, en gros, qui dit, les individus ont des intérêts objectifs, quoi. Mais bon, bizarrement, il y a beaucoup de gens qui agissent à l'encontre de ces intérêts objectifs, quoi. Et notamment, bien sûr, les pauvres, les prolétaires, les petites gens, etc. Leur intérêt collectif, ils l'ignorent. Donc, pourquoi est-ce qu'il est, pourquoi finalement? Parce que c'est des ignorants, quoi. Donc, l'idée toujours que, au fond, si les gens, en quelque sorte, ne comprennent pas leur situation, s'ils n'ont pas les attitudes qu'ils doivent avoir, c'est parce qu'ils savent pas, parce qu'ils sont ignorants, quoi. Et voilà, donc, et bon, je crois que ce que j'ai essayé de faire, c'est de rétablir l'idée. Non, c'est pas une question d'ignorance. C'est-à-dire, on passe son temps toujours à nous dire, on parle des fake news, etc., en nous disant, il y a des malheureux, ils savent pas, ils ont pas toute l'information, ils sont trompés, il y a trop d'informations. Ils ne savent pas les décrypter, parce que maintenant tous nos gouvernants et nos intellectuels décryptent, nos journalistes décryptent à longueur de journée, quoi. C'est-à-dire que, précisément, on suppose toujours qu'il y a tellement d'informations que personne ne peut comprendre, quoi, qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour expliquer. Alors ceux qui effectivement sont censés être un peu en bas de l'échelle, ils ne comprennent pas leurs intérêts, comme ils ne comprennent pas les intérêts, bien sûr, ils tapent à côté, quoi. Donc ils soutiennent des gens qui sont contre eux, ils soutiennent des Trump, ils ne se rendent pas compte que c'est un millionnaire, que ce sont des petites gens, et ainsi de suite. Donc, bon, moi, ce que j'ai dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que il n'y a pas, disons, d'abord une espèce de peuple qui, avec des couches différentes et des intérêts différents, etc. Non. Disons, un peuple, c'est pas une cause. Un peuple, c'est un effet. C'est-à-dire que un peuple, c'est quelque chose qui est créé par des institutions, par des modes de vie, par des pratiques, par des discours, par des images, par un tas de choses, quoi. Donc, il faut pas toujours chercher à trouver en quelque sorte. Finalement, par des passions, quoi. Et donc, je te dis, c'est quand même bizarre cette histoire. Disons, on nous dit que les gens qui votent pour Trump, sont des petites gens, des petits blancs, vous savez ce qu'on appelait là-bas le white trash, quoi. Donc voilà, c'est des gens qui ont perdu leurs emplois, qui ont perdu leurs repères, des gens un peu paumés, un peu abandonnés par le progrès, et par conséquent, ils se rattachent à l'homme providentiel, et ainsi de suite, ils se laissent tromper. Et bon, moi, je pense que c'est pas du tout ça. Ça me paraît quand même très bizarre de penser qu'il y a 75 millions de gens qui sont en États-Unis, qui sont des petites gens, comme ça, chômeurs, abandonnés, etc. Non, je dirais que, il est clair que c'est pas une question, disons, de recours de gens malheureux à une espèce d'homme providentiel, non? Si les gens qui votent pour Trump, ils votent pour Trump parce qu'ils aiment bien ce que Trump dit, quoi. Et si Trump ment, ils aiment bien ses mensonges, quoi. Je veux dire que, on voit bien tous les jours, si vous regardez un petit peu, disons, tous les commentaires des gens, sur Internet, quoi, que, je dirais que, on manque pas d'informations, personne manque d'informations, disons. Mais bon, en revanche, bon, il y a effectivement, bon, il y a, disons, il y a tous des foyers, pour dire, d'alimentation des patients, quoi. Donc voilà, je pense que il faudrait revenir, bon, disons. À une époque, effectivement, on peut dire que la question des patients est très importante, bah, dans la philosophie, bien sûr, on peut penser à Spinoza, à tout le moment, le rôle, finalement, des patients, aussi, par rapport à l'organisation politique, quoi. Et bon, à force de vouloir tout déduire des intérêts et puis de la méconnaissance des intérêts, on a enfin oublié ces logiques passionnelles. C'est-à-dire que on vit toujours sur une espèce d'idée de l'acteur rationnel. Bon, effectivement, ça a été imposé un petit peu par la doxa économique dominante, les acteurs rationnels. Puis bon, je dirais que l'acteur rationnel a beaucoup de passions irrationnelles, quoi. Il faudrait quand même réfléchir un peu à ça.
Et toutes les lectures ou les prophéties se basant sur l'homme rationnel sont plutôt tombées justement à côté.
Oui, je veux dire qu'il y a un modèle, il y a effectivement un modèle économique. L'acteur rationnel. Et bon, et pourquoi ça marche pas, quoi? Pourquoi ça marche pas? Bien sûr, c'est parce que les gens ils sont pas encore rationnels. Non, il va dire que bon, il faut arriver à, quand on voit quand même un peu maintenant le discours de nos gouvernants, bon, qui ont tous, on peut dire à peu près, été formés à une pensée de l'acteur rationnel, qui ont tous été plus ou moins formés par un même type de discours sur la société, sur le gouvernement, sur la nécessité économique, sur le fait qu'on ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'on fait, quoi. Bon. On voit bien que précisément ces gens qui nous disent bah, on agit rationnellement, on fait les meilleurs choix, pour autant qu'on a une marge de choix, quoi. Bon, ils passent leur temps, disons, à nourrir et alimenter en réalité des passions irrationnelles.
Vous évoquez également dans ce livre, disons, des sortes de contre-pouvoirs possibles, et vous parlez, en suivant ces années-là, la question des places. On pourrait se dire, comme ça, si on regarde les choses un peu rapidement, on se dit, ah tiens, les places, c'est finalement que du surplace. Et vous montrez au contraire tout ce que ces places déplacent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous avez vu dans ces places, également dans ce rapport au temps qui était autre, dans ce rapport aux relations, enfin,
bon, c'est un peu, bien sûr, c'est forcément toujours un peu sommaire, quoi, si vous voulez. Mais bon, ce qui est apparu, disons, malgré tout, dans les années 2000, 2010, c'est précisément quand même une espèce d'incapacité, disons, des forces dites politiques traditionnelles, à prendre à mesure de ce qui se passait, quoi. C'est-à-dire ce qui se passait, à savoir l'instauration d'une espèce d'ordre, ce que j'ai proposé d'appeler capitalisme absolu, qu'on a appelé néolibéralisme, qui est un terme que j'aime pas du tout parce qu'on se pose toujours que c'est la liberté là-dedans qui est en jeu. C'est pas la liberté, c'est vraiment la contrainte, quoi. Donc voilà, bon, il y a effectivement l'instauration d'une espèce de capitalisme absolutisé, s'emparant de toutes les formes de la vie, détruisant un peu toute une série de systèmes de solidarité sociale, quoi. Et puis bon, et disons, par rapport à quoi, bon, ben disons précisément, on peut dire que les forces traditionnelles n'avaient rien à dire parce que c'était la cité objective, quoi. C'était la cité objective, on pouvait pas faire autrement. Il y a une époque où on pensait que où la cité objective, elle était, disons, à gauche, pour le dire vite, quoi. Elle conduisait la révolution. Bon, elle se met à conduire peut-être autre chose, quoi, mais ça reste la cité objective. Donc, et finalement, disons, toutes les forces plus ou moins traditionnelles, bon, bah, voilà, on finit par dire que c'était ça la nécessité. Bon, encore en 2012, on a vu arriver, donc, un candidat à la présidence de la République qui nous dit que son ennemi, c'est la finance, qui va lutter contre la finance, quoi. Et puis bon, très rapidement, disons, on découvre que bon, c'est le président qui est plus que tout autre a ouvert à la finance, disons, la voie la plus royale, quoi. Donc voilà, donc en face de ça, de fait, je dirais que en face de cette espèce de, on peut dire, de démission de l'ancienne gauche, parce que bon, en particulier en France, on peut dire quand même de trahison malgré tout à grande échelle de ce qui s'appelait le Parti socialiste, quoi. D'une certaine façon, bon, il est apparu que pour les seules forces les seules forces qui vraiment s'opposaient à ce qui se mettait en place, à ce qui se consolidait comme autorité absolue du capital, mais aussi comme renforcement continuel de l'État policier, quoi, c'était effectivement des forces qu'on peut dire improvisées, quoi. C'est-à-dire des gens qui sont descendus dans les rues, bon, souvent à partir d'un objectif précis, bon, mais à partir dans les rues pour dire que le fond, le tout de la vie, que la politique, que la vie publique, c'était pas ce qui était organisé par le gouvernement. Que bon, il faut que le peuple, c'était pas simple, c'était pas ce qui était prescrit par le gouvernement, par les élections. Au fond, il y a des gens qui se sont mis, sont décidés à faire peuple d'une autre manière. Bon, et ça veut dire à rompre avec une certaine tradition. Bon. Tu repenses au début de Occupy Wall Street à New York, quoi, ça a commencé comment? Il y a beaucoup de récits, bien sûr, mais bon, il y a un des récits qui dit que, voilà, il y a, à un moment donné, il y a des gens, bon, voilà, il y a une manif, on en fait tout le temps, quoi, bon, depuis que je suis jeune, il y a tout le temps des manifs, quoi. Et puis, il y a d'un coup, il y a un jour, une manif où des gens ont dit, ben non, on va rester. On va plus bouger. On va rester sur place. Ouais. Donc effectivement, ils sont restés sur place et bon, ils ont installé une tente, leurs tentes. Ils ont installé des assemblées. Donc avec l'idée, bon, finalement, on n'est pas cantonné à être quelque sorte à la force qui tout le temps proteste, défile pour protester, quoi. D'une certaine façon, on peut montrer que nous aussi, bah, on est un peuple, on a comme une espèce de puissance, en quelque sorte, de constituer une sphère publique, de constituer un peuple. Je crois que c'est ça qui était important dans tous les mouvements des places. Bon, bien sûr, on peut dire, bah, tout ça, finalement, est tombé en connu, mais qu'est-ce qui n'est pas tombé en connu? Je veux dire, ce qui me paraît important, c'est cette espèce de, peut-être de remise en question du modèle traditionnel. Le modèle traditionnel, il y a la spontanéité, ça c'est mauvais, la spontanéité, et puis il y a l'organisation. Et bon, il faut faire confiance à l'organisation, quoi. Bon, il était paru à un moment donné quand même qu'on ne pouvait plus du tout faire confiance aux organisations qui étaient censées traduire les aspirations populaires, puis les travailleurs, bon, et ainsi de suite, quoi. Donc, par conséquent, effectivement, il y a des gens qui n'étaient pas d'ailleurs des gens simplement tombant du ciel comme ça. Enfin, bien sûr qu'il y avait aussi des traditions eux-mêmes d'organisation, de lutte, d'association, que sais-je. Mais voilà, qui, d'une certaine façon, qui ont dit maintenant, c'est la démocratie, c'est nous, quoi. Parce que c'était le mot d'ordre, on sait, des gens de la Plaza del Sol à Madrid, quoi. Démocratie réelle maintenant, quoi. Donc voilà, il y a des gens qui disent, bah, la démocratie c'est nous, votez pour nous et on va vous faire avoir des belles choses démocratiques, quoi. Et puis il y a des gens en face qui disent non, la démocratie réelle c'est nous, c'est-à-dire c'est les formes d'organisation qu'on essaye de faire, c'est le monde bon, égalitaire qu'on essaye de penser et aussi de mettre, bah, aussi modestement que possible, disons, en acte dans ce qu'on fait sur cette place.
Et sur ces places, on a vu apparaître des performances, des façons de se regrouper différemment, et on a vu apparaître dans une certaine mesure un espace de brouillage entre art et politique. Il y a quelque chose qui vous intéresse assez souvent dans ce brouillage entre art et politique. C'est l'objet d'ailleurs du dernier article des voyages de l'art. Est-ce que, bon, c'est une grande question et c'est très rapide, mais est-ce que vous pouvez montrer un petit peu les enjeux de ce brouillage entre ce qui était censé relever de l'art et qui se révèle être politique, ce qui était censé relever de la politique et qui se révèle être d'un autre côté ou autre chose?
Bon, voyons dans quel ordre on prend les choses. Pour prendre les choses, je prendrai indirectement, si vous voulez. Bon, il y a eu un livre qui a eu un certain effet dans l'opinion de la pensée de gauche, qui était le Nouvel Esprit du Capitalisme. Le Nouvel Esprit du Capitalisme, donc écrit par deux sociologues, qui nous expliquent qu'au fond, il y a deux types de critiques. Il y a la critique sociale, traditionnelle, etc., articulée sur le groupe ouvrier, etc. Et puis, il y a la critique artiste. Critique artiste, c'est 68, c'est toutes ces choses-là, quoi. Donc voilà, l'idée d'une paix de partage, il y a la vraie politique, qui est la politique sociale pour des objectifs clairement définis, en même temps avec des groupes en quelque sorte qui sont qualifiés pour ça. Et puis le reste, bon, bah, c'est la critique artiste, bon, et ainsi de suite, quoi. Et bon, et on a vu se développer toute une série de thèmes, de critiques, de l'esthétisme, et ainsi de suite, quoi. Alors moi, ce que j'ai essayé de dire précisément par rapport à ça, c'est que le mouvement social, des gens lui-même, ce qu'on appelait mouvement social, c'est pas simplement le mouvement des gens qui voulaient avoir un peu plus de meilleurs salaires ou des meilleures conditions de travail. Le mouvement social, précisément, je l'ai étudié dans La Nuit des Prolétaires notamment, c'est le mouvement des gens qui voulaient avoir accès, on peut dire, à toutes les formes finalement de l'expérience, c'est-à-dire toute une richesse d'expériences communes, quoi. Et bon, et donc par conséquent, bon, disons, dire il y a le social d'un côté, l'esthétique d'un autre, c'est déjà quelque chose de douteux, quoi. Bon, il y a une deuxième chose qui est que qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, politique, c'est bon, la politique, c'est pas simplement des décisions prises par des gouvernants. La politique, c'est pas seulement des bulletins qu'on met tous les 5 ans dans des urnes. La politique, c'est toute une série, de performances qu'on fait avec des corps qui s'assemblent, des corps qui se mettent en mouvement, avec des paroles, avec des récits, avec des images, et ainsi de suite. Ce qui fait que bon, il y a toute, disons, il y a pas, quand on parle, on a très souvent pensé le rapport entre politique et art, avec l'idée, il y a la politique, et puis des artistes qui essayent de mettre leur art au service de la politique. Parce qu'ils essayent de dire, non, finalement, le lien principal entre politique et puis art, il est pas en aval, il est en amont, c'est-à-dire au niveau d'une certaine communauté des performances que font des artistes et les performances que font les acteurs, politiques, quoi. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu très fort dans les mouvements des places. Au mouvement des places, on se souvient que bon, il y a eu le rôle, par exemple, joué sur la place Tahrir en Égypte, etc. Bon, par un chanteur bon, qui d'ailleurs a été tué dans les premiers temps. Bon, j'ai du mouvement, quoi. On a vu le rôle que des gens de théâtre ont joué aussi dans les mouvements du mouvement de la place Syntagma à Athènes. Bon, j'ai commenté, bon, notamment un épisode assez célèbre de la révolte de la place Gezi, de Gezi Park à Istanbul, quoi, qui est l'action d'un artiste performeur, Erdem Gunduz. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Bon, je rappelle pour ceux pour qui c'est pas déjà quelque chose de bien connu, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il arrive, donc, il y avait toute cette agitation tout autour, bien sûr. Des gens qui avaient déjà commencé à installer un petit peu des tentes, à dire on reste là, on bouge pas. Et bon, il s'installe sur la grande place, en face d'une espèce de symbole, à savoir le portrait d'Atatürk, donc le père de la République, quoi. Et puis il reste là, il bouge pas. Après, c'est un performeur, c'est quelqu'un qui bouge. Il est danseur, il devrait bouger. Alors, il bouge pas précisément. Sa performance consiste en quelque sorte à aller à contre-courant de son activité. Il reste là debout, et puis il y a des gens qui s'assemblent un petit peu tout autour, et finalement, voilà, petit à petit, ça grossit, et bien sûr, avec la police, c'est pas très bien quoi faire, quoi, parce que des gens qui bougent pas, est-ce qu'on peut vraiment, disons, les critiquer de pas bouger, quoi. Donc voilà, ce qui s'associe à une performance politique, justement, une performance politique qui elle-même est une performance esthétique, en quel sens? Esthétique ou sachant en quelque sorte la configuration de l'espace, ça change aussi un emploi du temps, quoi. Donc sur des places faites pour circuler, bon, on installe des tentes, on installe des assemblées, voilà, on transforme un lieu de circulation en lieu de vie, en lieu de discussion politique. Et bon, c'est en un sens, c'est déjà esthétique, ça veut dire qu'on change précisément un petit peu la forme sensible d'un espace, quoi. Donc à partir de là, bon, j'ai étudié un petit peu dans le dernier chapitre des voyages de l'art un certain nombre de performances qui ont, bon, justement cette espèce de particularité que on ne sait pas très bien où commence la politique ou la nôtre s'arrête, quoi. Bon, une performance qui est, bon, au moins un peu significative, ça se passe en 2009 à la biennale la biennale de Cuba. Bon, ben, Cuba est ce qu'il est, mais Cuba a une biennale évidemment comme tout le monde, quoi. Donc à la biennale de Cuba, cet artiste Tania Bruguera décide de faire quoi, décide une installation performance qui est en fait une espèce de dramaturgie, de mise en scène qui est une caricature en réalité d'un discours célèbre de Fidel Castro, quoi. Donc voilà, on reconstitue la tribune, on reconstitue un petit peu les militaires qui étaient autour, les militaires posaient une colombe sur les épaules des orateurs, etc., ainsi de suite. Enfin, en l'occurrence de l'orateur, parce qu'il n'y en avait qu'un seul qui était le leader Maximo. Donc, mais lui, donc voilà, là, donc elle refait en quelque sorte, d'une certaine façon, elle recrée le décor, et dans ce décor, on invite les gens à venir pour une minute. Dire tout ce qu'ils ont envie de dire, c'est-à-dire à faire usage de la liberté d'expression, quoi. Et donc effectivement, il y a des gens qui défilent, etc. Et tout ça, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit bon, maintenant ce qu'il faut, qui émet un vœu, quoi. Et le vœu, c'est que il arrive un jour, la liberté d'expression à Cuba ne soit pas simplement une performance artistique, quoi. Voilà. Donc, mais en même temps, disons, cette performance artistique est déjà, en quelque sorte, une performance politique, parce que, bon, elle fait bouger quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose qui n'était pas possible devient possible. Et en un sens, disons, il y a une espèce de communauté entre performance politique et performance artistique, à savoir que précisément, il y a quelque chose qui n'était pas possible en un lieu, qui devient possible en ce lieu, ça veut dire aussi que ce lieu change en quelque sorte de fonction, quoi. Et là encore, je crois que c'est pour ça que toutes les histoires de critique sociale, de critique artiste et ainsi de suite, bon, c'est quelque chose qui est vraiment très très superficiel par rapport à la réalité de ces mouvements. Effectivement, en même temps, ça y a avec éventuellement des conflits, quoi, aussi. Bon, il y a un autre exemple, si je veux, dans ce chapitre, c'est le... Bon, ça se passe à Bogota en 2016, donc après que le gouvernement colombien a fait la paix avec les FARC. Donc il y a un accord qui met fin à la guerre civile, quoi. Sauf que cet accord, il est finalement rejeté par référendum par la majorité de la population. À la suite de quoi, bon, il y a tout un peu les gens du camp de la paix, disons, qui s'agitent, qui veulent relancer le processus un petit peu le processus de paix, et en même temps un dynamisme pour la paix, quoi. Et donc, il y a notamment une artiste qui a une idée, elle convoque plein de gens pour faire quoi? Pour une action qui consiste d'abord à écrire, je crois qu'il y a, ils étaient 2000, quoi, elle retient 2000 noms de gens qui sont morts pendant la guerre civile, bon, que soit finalement dans l'armée régulière, soit dans la guérilla, soit dans les milices, peu importe, ou même des civils pris au piège, quoi. Et voilà, donc qu'elle convoque des gens qui vont écrire ces noms sur des bouts de tissu. Après quoi, disons, ces gens vont assembler ces bouts de tissu et vont faire une espèce d'énorme tissu, en quelque sorte, qui va couvrir toute la place Bolivar, comme ça, comme précisément, bon, transformer, on peut dire, un lieu encore une fois, de circulation en un lieu de manifestation. Bon, c'est les artistes qui le font. Le problème, c'est que 2-3 jours avant, il y avait une manifestation politique qui demandait la même chose, à savoir la paix, quoi. Et que pour étendre le tissu, il a fallu un petit peu, afficher un peu mettre sur les côtés, les manifestants politiques qui avaient commencé à installer un camp de la paix, donc sur un peu la tradition des places, quoi. Alors bon, du coup, il y a des gens qui ont dit, voilà, il y a la vraie politique et puis il y a l'esthétique, quoi. Mais précisément, c'est pratiquement impossible de distinguer, parce que dans les deux cas, en quelque sorte, on a un même objectif, et dans les deux cas, on a au fond une même pratique, à savoir que on occupe un espace, on détourne le champ de cet espace pour justement le transformer en espace politique. Donc voilà, bon, c'est un petit peu ça que j'ai essayé d'étudier dans ce chapitre en question, c'est-à-dire justement ce point où, disons, les distinctions qui ont l'air bien claires, tout d'un coup, sont beaucoup moins claires.
Et en parlant de clair et moins clair, est-ce que c'était clair pour vous que les voyages de l'art, ça allait être une sorte de cousin ou de miroir inversé d'esthésis, dans la mesure où dans esthésis, on voit tout le travail qui est fait entre l'art, le dehors, le dedans, ou est-ce que vous l'avez...
Bon, si on revient à les choses, parce que bon, tout le monde n'a pas forcément lu ni Voyage de l'art, même Esthésis, qui est plus ancien, quoi. Donc, qu'est-ce qui m'a intéressé, moi, c'est dans un petit peu dans ce que j'appelais régime esthétique de l'art, quoi. C'est une espèce de contradiction originelle, quoi. C'est-à-dire que bon, à la fin du XVIIIe siècle, on voit vraiment un petit peu sur la ruine des anciens beaux-arts et de leurs normes, on voit se constituer quelque chose comme une sphère d'expérience particulière, en quelque sorte, qui n'a plus de destinataire particulier, qui s'adresse un peu, à n'importe qui. Ça veut dire notamment que bon, toutes les œuvres qui étaient dans les palais, dans les couvents, elles vont être, surtout avec l'aide des armées françaises, bien sûr, faut bien le dire, rassemblées dans des musées, donc dans une espèce de lieu en quelque sorte anonyme et offerte à un public anonyme. Bon. Donc il y a toute une espèce de, on peut dire, c'est le moment, on peut dire, où tout d'un coup, les arts ne sont plus en quelque sorte définis par des fonctions qu'ils accomplissent, mais sont définis en quelque sorte comme une espèce de sphère d'expérience propre, quoi. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que création, en quelque sorte, d'une sphère spécifique de l'art, s'accompagne de quelque chose qui est la perte de tout critère, de toute frontière, séparant ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Pourquoi ? Parce que précisément, les anciennes normes des beaux-arts, des normes de fabrication, des normes de conformité à un public donné, etc., bah, tout ça ont disparu, quoi. Ce qui fait que le moment où l'art se met à exister avec un grand A, quoi, c'est récent, tout ça. L'art n'existe avec un grand A comme ça que depuis la fin du XVIIIe siècle, quoi. Avant, il y avait les beaux-arts, il y avait les arts libéraux, que sais-je encore, mais voilà, il y a un moment où ça se met à exister, et bon, ce moment, en même temps, il est le moment où cet art, en quelque sorte, a perdu toute frontière. Ça veut dire quoi, perdu toute frontière? Ça veut dire que, précisément, disons, l'art ne cesse de, peut dire, de se mêler avec son dehors. Alors, il y a deux manières de penser ce rapport. Et effectivement, dans ce livre Aesthésis, que j'ai publié il y a une douzaine d'années, ça examine une quinzaine un petit peu de scènes de ce qu'on pourrait appeler l'histoire de l'art moderne, quoi, depuis le XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe. Ou qu'est-ce qui se passe? On peut dire que le fond, la sphère de l'art se consolide en incluant tout ce qui lui était extérieur, quoi, c'est-à-dire tout ce qui était considéré comme de l'art vulgaire, de l'art populaire. Ça commence au moment où la peinture de genre, qui était vraiment la peinture véritablement le bas de l'échelle, quoi, devient finalement la grande peinture, quoi. Et la peinture d'histoire, qui était au contraire, la célébration des grands hommes, les cours s'effondrent, quoi. Et puis ça continue avec au milieu du 19e siècle, on voit des poètes qui vont assister au spectacle des funambules, qui vont voir les clowns anglais, les Hanon Lees, et qui disent le véritable poésie, le véritable art, c'est ça. C'est pas l'art institué, etc. C'est eux les véritables artistes, c'est eux les véritables poètes. Ça continue avec Mallarmé. Mallarmé, voilà, qui est censé être le poète comme ça de la langue purifiée, mais qui passe son temps dans les petits théâtres et dans les music halls, quoi, et qui trouve notamment aux Folies Bergères, donc en principe pas lieu du grand art, quoi, donc la danse de l'œil Fuller. Donc voilà, il dit c'est ça véritablement, voilà une esthétique nouvelle avec cette danseuse, en fait, qui fait remuer ses voiles en même temps avec tout un système de projection électrique comme ça. Voilà. Et après ça continue. On peut penser avec Charlie Chaplin. On se rend compte, si on regarde un petit peu l'histoire de l'art moderne, quoi, que dans les années 1910-1920, on peut dire celui qui incarne, veut dire le bouleversement des normes de l'art, c'est pas Mondrian, c'est pas Kandinsky, c'est pas Duchamp, c'est Charlie Chaplin, quoi. Charlie Chaplin, et qui est adopté par les poètes, adopté aussi par les artistes soviétiques. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de montrer un petit peu comment l'art se constitue en incluant constamment ce qui était en dehors de l'art, quoi. Et dans les voyages de l'art, c'était toujours la même chose. Ça va, cette question de frontière qui est poreuse, quoi. Sauf que je le prends dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire avec ce mouvement qui commence déjà effectivement, donc à l'époque de la Révolution, à l'époque du romantisme, où finalement l'art pense que sa vocation, c'est de devenir autre chose, de devenir une forme de vie, quoi. Parce que en même temps, c'est l'époque aussi où on redécouvre on l'a très souvent redécouverte, mais enfin, disons au XVIIIe siècle, on redécouvre une fois de plus la Grèce antique, l'art antique, etc. Et voilà, et on le redécouvre comment? Comme l'art, comme expression de la vie du peuple. C'est effectivement XVIIIe siècle, parce qu'il y a Winckelmann qui écrit cette histoire de l'art dans l'Antiquité, en disant l'histoire de l'art dans l'Antiquité, c'est l'histoire de la liberté antique. C'est l'histoire de la liberté antique du peuple. Et un peuple libre, c'est pas simplement un peuple, qui a des assemblées et qui a pas de tyran, quoi. Un peuple libre, c'est aussi un peuple dans lequel on peut dire, au fond, il y a pas de division du travail, il y a pas de séparation entre la politique, l'art, la religion, etc. Non. C'est en quelque sorte un art qui s'exprime tout entier, un peuple qui s'exprime tout entier dans chacune de ses manifestations. Donc voilà, l'art naît comme sphère autonome, avec cette espèce de grande nostalgie, disons, d'un art qui a été véritablement la vie d'un peuple, quoi. Ce qui veut dire aussi, avec du même coup, cette espèce d'impulsion interne qu'il faut que l'art redevienne à nouveau la vie d'un peuple. C'est quelque chose qui traverse effectivement toute l'histoire moderne. On peut penser au 19e siècle en Angleterre avec les arts and crafts, des gens comme Ruskin, comme William Morris, qui disent l'art des petits tableaux qu'on accroche au mur, ça c'est rien, c'est pas intéressant. Le véritable art, c'est l'art qui crée véritablement des habitations pour un peuple. C'est l'art qui abrite la vie, qui embellit la vie, qui symbolise la vie. C'est repris après ça au 19e siècle, à part les disons les ingénieurs, les designers en Allemagne, du Werkbund, du Bauhaus aussi, bon, qu'est-ce qui, bon, qui pensent, voilà, voilà, on crée un monde nouveau avec des formes nouvelles, des formes de vie, bon, des formes de vie rationalisées et au fond avec une forme de beauté qui est font, en quelque sorte identique à une forme de rationalisation. Bon, bien sûr, ça prend toute son extension à l'époque de la révolution soviétique, du moins, enfin, disons les 10-12 premières années, quoi, avec cette idée, oui, notamment que, bon, les artistes, si tu regardes ce qui se passe à l'époque, c'est, voilà, les artistes, bon, qui se mettent à décider, maintenant, on fait plus d'œuvres d'art, on fait plus de tableaux, on fait plus des pièces de théâtre, on fait plus des films qui racontent des histoires, on crée les formes de la vie nouvelle, quoi. Donc, et encore une fois, il s'agit pas de, parce qu'on a toujours l'idée, voilà, il y a la politique, ça, c'est la contrainte, il y a la liberté, là, il y a l'art, c'est la liberté. Mais non, d'une certaine façon, c'est les artistes qui demandent, on peut dire, à devenir des créateurs de formes nouvelles, des créateurs de formes sociales nouvelles, et disons, et pas du tout précisément, et pas des artistes libres, d'une certaine façon, quoi.
En revanche, vous êtes libre de poser des questions. Voilà, si vous le souhaitez, profitez-en, l'heure passe. Merci en tout cas beaucoup. C'est normal. Voilà, et puis on vous invite évidemment à découvrir ces textes. Profitez-en, hein, si vous voulez poser quelques questions. On va prendre un petit quart d'heure à ce sujet.
Alors je voulais d'abord vous remercier pour votre présence, parce que je suis très impressionné par votre rencontre. Je voulais aussi profiter de votre connaissance des mouvements sociaux pour poser une question sur la grille de lecture qui semble avoir disparu de des rapports sociaux marxistes aujourd'hui, la grille de lecture marxiste. Est-ce que c'est toujours une grille d'actualité, ou est-ce qu'il faut la revisiter? Comment il faut faire aujourd'hui pour expliquer et comprendre un peu nos relations dans la société? Et j'ai une deuxième question que j'avais pas pu poser à Albert Jacquard. Alors on peut pas rater tous les rendez-vous, donc j'en profite pour vous la poser. Est-ce que le début, la source des passions humaines, c'est pas aussi la propriété privée? Qu'est-ce qu'il faut penser à partir de là? Merci, s'il vous plaît.
Ok. La question, c'est de savoir ce qu'on entend par grille marxiste. Parce que le problème, il y a une grille marxiste qui est parfaitement claire. C'est la grille marxiste d'interprétation, des processus sociaux, quoi. Ce qui devient beaucoup moins clair, c'est là où la grille marxiste, bon, a prétendu, et bon, effectivement, elle l'a prétendu depuis très longtemps, être, disons, aussi une grille d'interprétation, d'interprétation de ce qu'il fallait faire politiquement pour, en quelque sorte, que cette grille sociale, en quelque sorte, devienne quelque chose comme une action politique collective, quoi. Bon, malgré tout, disons, toute la, il y a en quelque sorte une espèce de foi marxiste qui est que, lorsque on a décrit en quelque sorte les mouvements sociaux, lorsqu'on a dit d'où vient chaque classe sociale, chaque fraction de classe, etc., bon, on va en quelque sorte pouvoir expliquer comment telle ou telle fraction de classe va pouvoir faire partie d'un mouvement, etc. Bon, quand j'étais jeune, ça a été encore très très fort, ça. Bon, je me souviens qu'il y avait notamment un texte de Mao Tse-Tung qui expliquait un petit peu les différentes choses concernant l'être de classe, la position de classe. Il y avait aussi des penseurs qui reprenaient tout ça. Donc voilà. Donc ce qui malheureusement est clair, c'est que la grille d'interprétation, au fond, c'est que la connaissance, on peut dire, des rapports sociaux, n'a jamais été suffisante pour fonder une action politique. Donc par conséquent, en fait, l'action politique des groupes se réclamant du marxisme, en même temps, a toujours été en quelque sorte inspiré de modèles qui étaient des modèles, on peut dire, extérieurs en réalité à la rationalité marxiste de la société. Bon, c'est déjà au 19e siècle, bon, bah, la dictature du prolétariat, la dictature, bon, bah, ça vient de Blanqui, ça vient des républicains radicaux, mais il n'y a pas d'intérieur à l'analyse des rapports sociaux, on ne peut pas en tirer ça. Bon, et après ça, bon, il y a effectivement, bon, il y a les. À un moment donné, bon, la foi des partis sociaux-démocrates, notamment allemands, dans la République parlementaire, avec l'idée que, voilà, d'élection à élection, en élection, on grossit, quoi, puis un jour, ben, on va prendre le pouvoir. Donc voilà. Et bon, il y a, d'une certaine façon, après ça, si vous prenez 17, l'idée que, l'accomplissement de la connaissance des rapports sociaux, c'est un coup d'État pour s'emparer du pouvoir central. C'est une espèce de grève, quoi. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que l'action des groupes réclamant du marxisme a toujours été un peu une espèce de greffe sur, le savoir théorique marxiste, de formes d'action qui, en fait, venaient largement d'ailleurs, quoi. Or, ce qui s'est passé, d'une certaine façon, depuis le moment 68, quand 1968 était peut-être un peu un révélateur à sa manière, quoi. Et bien sûr, après ça, quand les usines ont disparu et quand la classe ouvrière, qui était censée être le moteur de la révolution, elle s'est trouvée disloquée, quoi. Il est apparu clairement que ça, c'était plus possible, quoi. C'était plus possible et que, effectivement, il faut penser on est obligé de penser en quelque sorte l'autonomie des formes d'action politique par rapport aux mouvements de la société qui sont censés les expliquer et les fonder, quoi. Ce qui est particulièrement a éclaté notamment si on pense au moment des gilets jaunes, quoi. Les gilets jaunes, des gens qui en principe appartiennent à une classe qui doit être réactionnaire et ainsi de suite et suivistes et compagnie, et qui se mettent à faire à occuper des places, à sortir des drapeaux, des slogans révolutionnaires et tout ça. Des gens qui étaient censés être vraiment appartenir un peu, disons, souvent on disait qu'ils appartenaient à l'électorat du Front National, etc. Puis, on les voit imiter finalement les étudiants gauchistes. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, dans la déduction du politique par rapport au social, quoi. De certaine façon, je pense que on en est là aujourd'hui, à savoir que l'action politique est d'une certaine façon un peu orpheline de cette espèce d'arrière-fond social qui était censé un fond la garantir et la guider, quoi. Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, bien sûr, j'ai oublié entre-temps, à part qu'il y avait Jacquard dans le coup, mais...
Non, c'est sur la propriété privée. Je me demandais si ce n'était pas l'origine des passions humaines dont vous parliez.
C'est une des origines des passions. Disons le maître que je me reconnais, à savoir Joseph Jacotot, il y a un passage assez célèbre où il dit finalement l'origine véritablement des passions inégalitaires, c'est pas celui qui le premier a dit ce champ est à moi, c'est le premier qui a dit tu n'es pas mon égal. Donc voilà, je dirais d'une certaine façon, la passion de l'inégalité est quelque chose qui est extrêmement fort. Donc la passion de la propriété, bien sûr, elle existe, mais on ne peut pas justement en faire, je crois, la passion fondamentale. C'est-à-dire, si on essaye d'expliquer justement un petit peu les mouvements passionnels que on voit un peu partout autour du monde aujourd'hui, quoi. Par la propriété privée, ça suffit manifestement pas, quoi. Le désir que l'autre soit inférieur est quelque chose effectivement qui est indépendant par rapport à l'étendue des propriétés, quoi.
Bonjour, je m'appelle Yasmine. Déjà, quand je lis Rancière, c'est comme si des petits mots, des petites phrases. Ça devient des petits bonhommes en trois dimensions et qui dansent, qui chantent, qui crient. Enfin, vous n'écrivez pas, vous faites bouger la chose. Ça, c'est une chose. J'ai un copain qui vient de finir sa thèse à Pâle 8. Et quand je disais, mais tu vois pas ça, c'est ça, on voit nulle part ça. Et il m'a dit, moi j'ai mon Althusser, j'ai mon Étienne Balibar, j'ai pas besoin de ton Rancière. Bon, écoutez, ça c'est première des choses. Après, c'est, de temps en temps, on a l'impression quand même que ça, c'est une main en fer qui nous touche en velours. Enfin, comment vous arrivez à faire ça? Ça, c'est la première question. Deuxième question, enfin, j'en ai plusieurs. Là, je viens de penser, quand vous avez dit, enfin, j'ai pensé à l'atomisation les ouvriers, les oubliés, les... c'est pas parce qu'ils sont imbéciles, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à fixer une intensité. comment on peut développer ça? Fixation d'une intensité. Ça peut être un sens d'un mot. Ça peut être une idée, un concept comme nationalisme. Ça peut être la République. Comment on fixe une intensité? Ça, j'ai pensé quand vous parlez. Et ma question, ce n'était pas ça. Ma question, c'est le bruit, la parole, l'écriture et le code informatique. Maintenant, je fais des étapes. Par exemple, un enfant qui pleure pour sa maman, ce n'est pas tout à fait le bruit. Parce que la maman, elle sait que voilà, c'est le sommeil ou bien la faim, blablabla. Pour les papas, peut-être c'est un peu plus compliqué. Parce que les papas, ils ont besoin des fois la traductrice maman pour comprendre. Après, il y a la parole qui est un petit peu plus civilisée que le bruit quand même. Et après, il y a l'écriture. Et maintenant, le cours d'informatique. Comme on est devenu, là, on était dans une formation au magistrat. C'est un citoyen qui n'est pas numérique en ce moment est devenu un non-citoyenne. Enfin, la numérisation de la citoyenneté qui devient quand même un problème. Ma question, c'est que c'est comme si on était en train de glisser. Enfin, glisser vers... le cours d'informatique est devenu l'écriture. L'écriture est devenue parole. Et parole est devenue bruit. Et le bruit, on l'exclut. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Est-ce que le numérique, ça vous fait peur? Je suis désolée, ce n'est pas une question sur le marxisme. Pardon. Désolée. Hein.
Dire que ça me fait peur, ce serait peut-être pas exactement le terme juste, quoi. Moi, j'appartiens, on peut dire, à une civilisation de l'écriture, quoi. L'écriture, ça veut dire quoi? L'écriture, ça veut dire, ce que disait Platon, quoi. Savoir que, il y a de la parole qui s'en va rouler à droite et à gauche, sans savoir à qui il faut parler et à qui il faut parler. C'est-à-dire, l'écriture, c'est un type de parole qui peut être réapproprié, transformé, etc. d'une certaine façon. Effectivement, j'écris des livres qui sont pas faits pour dire aux gens ce qu'il faut qu'ils pensent, mais qui sont faits en quelque sorte pour initier des déplacements. C'est-à-dire que par rapport à effectivement des en quelque sorte, ce que j'appelle le consensus, à savoir une espèce d'ordre établi qui fait que il y a une signification qui sont attachées à des perceptions, que on sait ce qu'il y a, on sait ce qu'il faut en penser, ainsi de suite. J'essaye de créer effectivement des lignes de déplacement, quoi. Bon, par rapport à ça, effectivement, le problème de l'informatique, c'est que c'est de l'écriture qui, c'est que c'est pas de l'écriture, c'est-à-dire que ça peut pas être approprié, quoi. C'est-à-dire, d'une certaine façon, l'informatique a pour principe que il y a une seule réponse, quoi. Il y a un seul type de maniement. Donc effectivement, pour moi, c'est quelque chose, disons, qui me paraît effectivement très important, quoi. Cela dit, je suis aujourd'hui dans une librairie. Il y a une masse assez considérable de livres, une masse considérable de gens qui lisent des livres avec ce que ça suppose précisément, à savoir ces formes d'appropriation ou qui sont des formes aussi de dépropriation, des formes de transformation, des formes d'altération. Et donc, malgré tout, je pense que tout ça continue malgré tout. Je vais pas rentrer dans tous les détails sur la parole, le bruit, le langage, mais effectivement, j'en ai beaucoup parlé précisément de la façon dont la parole doit toujours prouver qu'elle est autre chose que du bruit, et la façon dont l'écriture précisément, en quelque sorte, aussi fait entendre comme parole ce qui est censé être simplement du bruit, quoi. Moi, disons, en écrivant, j'ai essayé de faire entendre comme parole, des choses qui étaient enfouies, qui paraissaient être simplement comme une fait de bruit de fond, comme ça, d'une masse, on peut dire muette ou bien, disons, incapable de parler, quoi. Donc, voilà ce que je pourrais répondre. C'est pas vraiment une réponse, mais en même temps, comme je me pose pas les mêmes questions que vous, je peux pas donner les réponses que vous attendez.
Merci. Moi, j'avais juste une question sur le titre Les 31 Glorieuses ou les 31 Glorieux.
Oui.
Ok, et je voulais juste savoir quel est ce titre et pourquoi 31?
31 glorieuses, bien sûr, parce qu'on nous a beaucoup bassinés avec les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, donc, bon, moi, disons, j'ai été enfant, si vous voulez, dans un monde qui était un monde, bon, un peu d'après-guerre, quoi, d'après-guerre, qui était un monde où il y avait, bon, pas mal de restrictions, pas mal de conflits sociaux, où il y avait les guerres coloniales, il y avait toute une masse assez considérable, malgré tout, de problèmes, de misère, de conflits, de violences, et ainsi de suite, quoi. Et voilà, bon, j'ai toujours du mal avec les gens qui ont baptisé cette époque les 30 glorieuses, quoi. 30 glorieuses avec l'impression comme ça que, voilà, il y avait une génération qui avait vécu dans l'abondance, qui ne s'était jamais occupée que de questions d'aménager, que de s'acheter des nouveaux appareils, que d'avoir plus de confort, que d'avoir plus de liberté sexuelle et ainsi de suite. Bon, c'est ce qu'on appelait aussi les baby boomers, comme ça. Et on sait que la grande vision un peu sociologico-journalistique de 68, c'est que c'est la révolte des baby-boomers. Les baby-boomers, bon, voilà, ils sont habitués à l'aisance, ils sont habitués à la liberté, ils sont habitués à la consommation. Pourtant, une période de 30 ans qui a vu, disons, se développer toute une série de phénomènes dont on a parlé un petit peu, à savoir, bon, l'espèce de règne du consensus, finalement, de droite et gauche ont fini par avoir à peu près la même vision des choses, le développement d'un racisme qui était justement plus un espèce de racisme supposé un peu de genre arriéré, mais un racisme d'en haut et ainsi de suite. Donc, voilà, bon, donc toute une série un petit peu d'extension sans limite du pouvoir du capital, disons de renforcement continu du pouvoir de l'État, de renforcement continu du pouvoir de la police, de développement continu de toutes les idées, bon, finalement, un petit peu, bon, raciste, ségrégationniste, stigmatisante et ainsi de suite, quoi. Donc, 30 années, bon, pas glorieuses, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à mon éditeur les 30 inglorieuses en pensant qu'il allait me dire oh non, ça c'est pas possible, quoi. Puis il a été content, donc voilà, ça s'est appelé les 30 inglorieuses.
Bah, il fait chaud, hein. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h. 92.2 sur Canal Sud.